France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Au rythme où vont les choses, cette histoire de vaccination, d'obligation, d'incitation, ça n'est pas le débat national du moment, c'est l'engueulade nationale du moment. C'est pire que parler politique au réveillon et se demander quoi faire au deuxième tour des présidentielles. Il y a des couples dont l'un est vacciné, l'autre non. Il y a des parents dont l'un veut faire vacciner les enfants, l'autre non. Ne me dites pas que vous n'avez pas découvert au hasard d'une conversation anodine que l'un de vos proches n'était pas vacciné. Au fait, c'est quand ta deuxième dose? Ah ben non, moi j'attends, j'y vais pas, j'ai même pas la première. Ne me dites pas que vous n'avez pas surpris une conversation au bistrot. Si on se reconfine à cause des non-vaccinés, ça va pas être possible. Ou à l'inverse, ils peuvent pas nous imposer quoi que ce soit, je m'en fous, je préfère un faux. On ne dialogue pas sur le vaccin, on se fâche. Les vaccinés trouvent que les non-vaccinés sont inconscients, égoïstes, ou les deux. Les non-vaccinés se braquent sous la pression qui est exercée contre le risque. Il est de vous brouiller avec toute une partie de votre famille ou vos amis, vous allez nous raconter, et ce serait peut-être un moindre mal. Le risque est de fracturer un pays tout entier si des mesures de restriction étaient obligatoires après les vacances ou même avant. Le risque, ce sont des tensions sociales. Le risque, c'est deux France, deux vies différentes. Ce sont deux France-là qu'on va essayer d'entendre l'espace d'un instant avec vous, en marquant aussi la différence entre refus et hésitation, entre non à la vaccination et non à la vaccination Covid, entre un non médical qui parle de peur essentiellement, un non politique qui parle de rancœur extérieure à la médecine. Si tu te vaccines, je te quitte, c'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Ça marche aussi à l'envers, hein,
ouais, j'imagine. Si tu ne te vaccines pas, je te quitte.
Pareil. Bonsoir Anne-Marie.
Bonsoir.
C'est vous la première Anne-Marie, soyez la bienvenue.
Merci.
On vous écoute.
Eh bien, moi je me disais, est-ce que le refus de la vaccination n'est pas posé un geste politique ? Dans la mesure où nous savons maintenant que le virus est lié plus ou moins à la déforestation, à l'élevage intensif, enfin à tous nos problèmes environnementaux actuels. Excusez-moi, je bafouille, je suis très impressionnée.
Je vous en prie.
Et donc, je me disais, là, on veut nous imposer la vaccination alors que nos dirigeants, gouvernants, ne sont pas en capacité de respecter des engagements qu'ils ont pris au niveau environnemental. Donc nous aurons d'autres virus. Et donc autant mourir maintenant, je me disais quoi,
plutôt que bah, écoutez, ou le plus tard possible quand même.
On vaccine tout le monde et puis eh ben on va recommencer d'année en année, on aura de nouveaux vaccins parce qu'on ne fait pas le nécessaire au niveau de l'environnement.
Du coup Anne-Marie, je vais vous poser la question à vous. Vous êtes vaccinée ou pas vaccinée?
Je me suis vaccinée parce que je devais partir avec des amis et c'était un peu la panique chez eux.
D'accord.
Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que je pense que je ne me serais pas fait vacciner en dehors de ça.
Vous l'avez fait pour eux ou
Pour eux, parce que nous devions partager un logement et ils m'ont dit bon ben nous garderons le masque dans la journée dans le logement. Bon, je me suis dit je peux pas leur imposer ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me vacciner.
Voilà, intéressant. Vous avez décidé aussi que vous n'alliez pas les perdre, ces amis-là, en fait, au fond, Anne-Marie. Non, mais c'est vrai. Et comment ça se passe, les discussions? Après, je vous laisse, c'est promis. Quand vous en parlez entre vous, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas en parler, en fait?
Eh bien, moi, ouvertement, j'ai toujours, en fait, dès le départ, j'ai dit, moi, je posais un acte politique, je n'avais pas l'intention de me vacciner.
Mmh. Et finalement, vous avez déposé l'acte politique pour partir en vacances avec
et
vos
ben
amis.
Voilà.
Mais c'est ça aussi que nous sommes tous des paradoxes ambulants. Je vous remercie beaucoup, Anne-Marie, de nous donner cette entrée en matière pour le téléphone sonne, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Laurence de Villiers est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous avez écrit « Être quelqu'un de bien » chez PUF. Nathalie Bajos est avec nous aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue pour l'INSERM et le HESS. Vous avez participé à la grande enquête de l'INSERM EPICOV et surtout en travaillant spécifiquement sur le volet intention vaccinale de cette enquête. Du coup, c'est pour ça que je vais commencer avec vous, Nathalie Bajos. Moi, je trouve intéressant la manière de formuler d'Anne-Marie qui dit, parfois, ne pas se vacciner est un acte politique, quelque chose que l'on pose. Et je me demandais s'il y avait effectivement un lien comme ça, quelque chose qui disait non à la vaccination, n'a strictement rien à voir avec la médecine, a tout à voir avec la politique. Qu'on parle d'environnement comme elle, ça c'est sa lecture à elle. Qu'on parle de « j'aime pas Emmanuel Macron, j'ai pas eu de masque », etc. Tout ça mis à la fois, non ?
Oui, tout à fait. Ce que vient de dire l'auditrice est intéressant à plus d'un titre. D'abord, ça montre bien l'écart entre les représentations qu'on peut avoir et la pratique effective, puisqu'on voit bien que finalement, cette dame s'est fait vacciner pour pouvoir partir avec ses
amis. Ça intéressera la philosophe dans un instant.
Je vous en prie. Que toutes les données qu'on peut avoir grâce à des enquêtes comme l'enquête Epikov sur les positions par rapport au vaccin, vous l'avez dit en introduction, d'abord, il faut vraiment distinguer les refus clairs et nets, et de l'hésitation vaccinale qui renvoie à des interrogations, j'ai envie de dire, toutes très légitimes compte tenu de la spécificité de cette crise, du virus, du temps dans lequel, extrêmement court, dans lequel on a mis au point le vaccin. Donc ça ne veut pas dire que ceux qui sont contre le virus, contre le vaccin, pardon, n'ont pas des positions légitimes. Mmh. Mais en tout cas, je tiens à souligner qu'il faut vraiment distinguer les deux. Les premiers étant des personnes qui vont très certainement être amenées à se faire vraiment vacciner, alors que les autres, ça va être sans doute beaucoup plus difficile. Mais cela étant dit, il n'y a pas un facteur qui explique le refus vaccinal. C'est pas uniquement le rapport, une dimension politique. C'est pas uniquement une dimension liée à votre distance sociale vis-à-vis du corps ou du pouvoir médical. Mm-hmm. C'est vraiment un ensemble de facteurs. Mais dans cet ensemble de facteurs, il est clair que la distance, le rapport distancié à l'autorité étatique se retrouve dans le refus vaccinal. Et que c'est même le facteur numéro un qui rend compte des réticences vaccinales. Et finalement, refuser de se faire vacciner, c'est un geste politique aussi. Et c'est une façon de traduire une défiance. Alors, l'auditrice évoquait les enjeux absolument primordiaux du réchauffement climatique. Alors, on n'a pas ces éléments-là pour aller aussi loin dans notre enquête, mais je pense que ça doit y participer. Mais c'est aussi une défiance vis-à-vis de la gestion de l'épidémie et plus généralement vis-à-vis de la politique du gouvernement.
Mais quand vous dites que c'est en tête, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est compliqué de faire un pourcentage et de se dire, je pense que ça va être trop compliqué, vous risqueriez d'aller sur des chiffres qui sont pas exacts, mais est-ce que ça veut dire vraiment que c'est plus ce genre d'argument qu'on met en avant que j'ai pas confiance, l'ARN messager ça me dit rien, j'ai peur des effets secondaires, etc.
Encore une fois, c'est vraiment un mélange de facteurs qui rend compte de ce refus vaccinal. J'entends. Mais dans ces facteurs, et j'ai envie de dire, peu importe les chiffres, une dimension qui est très structurante pour rendre compte du fait que les gens disent « je n'ai pas du tout l'intention de me faire vacciner », c'est une position de défiance vis-à-vis du pouvoir politique. On a testé aussi la défiance vis-à-vis des scientifiques, qu'on retrouve beaucoup moins. Et c'est vraiment une connotation politique parmi d'autres facteurs sur lesquels on reviendra. Mais c'est intéressant que la première auditrice souligne ce point qui, dans les recherches, apparaît comme une des dimensions les plus structurantes.
Laurence de Villers, moi j'aimerais savoir ce que la philosophe pense de la remarque d'Anne-Marie, la manière dont elle a appréhendé sa vaccination. Et c'est hyper intéressant, c'est une vaccination contrainte et en même temps elle y va. Qu'est-ce que ça dit, ça, en fait ?
Alors, ça dit que c'est politique et ça l'a toujours été. Effectivement, il y a beaucoup de facteurs. Il y a eu une cristallisation de plein de choses. C'est comme si notre société, avec cette pandémie, avait vécu en accéléré des révolutions, de la résistance. On est passé, je pense, d'une démocratie du consentement. Qu'est-ce qui fait qu'un pouvoir est légitime ? C'est parce qu'on y consent. À une démocratie de la défiance. Et d'une certaine façon, La revendication de liberté, c'est-à-dire comme si ne pas se faire vacciner était de la dissidence, de la désobéissance,
de la résistance,
de la désobéissance civile. Je pense que on est passé là de la liberté à la licence, c'est-à-dire qu'en fait on pense que tout geste, s'il exprime quelque chose de mon individualité, de ma singularité, et ma liberté. Et de fait, on ne s'interroge pas sur le fait que, tout simplement, on apprend ça en terminale, ma liberté s'arrête ou commence celle des autres.
J'allais vous demander, est-ce que ça veut dire que le collectif a disparu de notre raisonnement là?
Alors moi, ce qui me frappe, c'est que on a le sentiment qu'il est difficile d'adhérer, donc de consentir, parce qu'il est difficile de fédérer. Donc, nous gouvernés, nous n'adhérons pas facilement, mais les gouvernants, justement, ne parviennent pas à fédérer. C'est-à-dire que le collectif n'existe pas, Fabienne Synthèse, on le crée, le pouvoir d'un chef, quel qu'il soit, c'est justement de créer une unité qui n'existait pas. Et là, on a l'impression que le collectif ne prend pas. Alors on pourrait dire que c'est un problème politique, c'est-à-dire que le politique est considéré comme un pouvoir, mais pas une autorité. Et comme c'est un pouvoir, tout pouvoir génère son contre-pouvoir. Donc, sa résistance, sa dissidence. Donc, il y a un problème d'autorité, de légitimité. Mais on pourrait dire aussi, et je trouve que c'est plus grave, qu'on a perdu le sens de la justice, par exemple. Et le collectif, il se fonde aussi sur la justice. Et la justice, c'est quoi ? C'est le respect de l'autre, déjà. Alors, ça peut être un respect sanitaire. Du coup, notre auditrice s'est quand même fait vacciner quelque chose comme un respect. Et la justice aussi, c'est précisément ce qui fait tenir le collectif. C'est tout le monde a le même traitement. Et il faut avoir une bonne raison pour s'exempter de ce collectif. Donc, vous voyez, je pense que, oui, il y a eu une accélération des problèmes et une pérennité de ces problèmes, puisqu'il y en a toujours, à peu près toutes les semaines, il y en a un nouveau. Mais je crois qu'on a basculé dans autre chose. Oui, une démocratie de la défiance.
Alors, basculer, c'est intéressant que vous employiez ce mot-là. Bonsoir, Gabrielle.
Oui, bonsoir.
Oula, Gabrielle, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, vous m'entendez?
Subitement, vous étiez partie. Allez-y, on vous écoute.
Oui, c'est simplement un témoignage, en fait. Moi, j'ai assisté à deux échanges cet après-midi entre vaccinés et non vaccinés. Et il y avait beaucoup d'agressivité de la part des vaccinés vis-à-vis des non-vaccinés. Comme quoi les non-vaccinés étaient stupides, qu'à cause d'eux, il y aurait une quatrième vague, un reconfinement, etc. Et il y avait beaucoup de culpabilisation dans tout cela. Et voilà, je trouve ça triste, je trouve ça dangereux. Parce que en fait, la France est en train de diviser en deux. Et je pense que tout le monde y participe un peu, y compris les médias. Et il y a pas de tolérance. Votre invité parlait de respect à l'instant. Il y a pas beaucoup de respect dans tout ça. Et je crains que les conséquences de cette situation, si on y fait attention, soit grave. Voilà.
Merci beaucoup, Gabrielle. Ce que je trouve intéressant, je vais revenir à vous, Nathalie Bajos, dans un instant. Laurence de Villers, ce que je trouve intéressant, vous parlez de basculement. Et Gabrielle nous dit, attention, il n'y a pas de tolérance, tout ça pourrait être grave. Moi, j'ai un peu le sentiment que ce pays est revenu, là, aujourd'hui, à ce qu'il était juste avant le confinement. C'est-à-dire dans le premier confinement, s'entend. Donc, dans un moment difficile, dans un moment de tension. Donc, on le reprend exactement au même endroit. Et la nouvelle arme, pardon de le dire comme ça, que chacun a à sa disposition, c'est le vaccin, en fait. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Vous avez raison, parce que j'ai l'impression que ce qu'on avait vécu avant le premier confinement, c'est-à-dire l'émergence de la colère, on l'appelle colère sociale, mais la colère, c'est-à-dire que avant les gilets jaunes, on a compris que notre régime politique, encore une fois démocratique, n'était pas un régime de la pacification des colères, mais au contraire, la possibilité de les faire émerger. Et je vais peut-être vous choquer, mais l'agressivité, pourquoi pas ? Pas au sens où je fais l'apologie de l'agressivité ou de la colère, mais parce que la démocratie, c'est pas la tolérance infinie où tous êtes du même avis, ça peut aller jusqu'à l'agressivité. Encore une fois, je dis pas que moralement c'est condamnable, mais on expérimente quelque chose qui n'est pas le monde d'après. Vous savez, ce monde dont on a rêvé quand on était confiné entre nos quatre murs. C'est plus facile de rêver quand on est confiné entre quatre murs. D'une certaine façon, il reste plus que ça. Mais on se rend compte qu'il y a même un durcissement de ce qu'on a connu avant. Notre auditrice parlait d'agressivité. Ben oui, elle est là. Mais je me demande si... Alors, encore une fois, je vais peut-être être à contre-courant, mais si s'empoigner, vraiment, ne permet pas d'aller au bout des choses, alors peut-être de faire tomber des discours parce qu'ils sont faibles, ils tiennent pas, ou peut-être de faire émerger une volonté de d'être respecté dans mon choix du vaccin.
Ah bah, tant qu'il y a des mots, tant mieux. Plus il y a de mots, mieux ça marche. Nathalie Bajos, moi je me demande si dans votre étude, vous avez perçu une différence politique, justement, dans non-vacciné, pas vacciné, ou pas du tout ? ou vaccinés, pardon, vaccinés, pas vaccinés, ou pas du tout.
Alors, si vous parlez d'opinion politique, on n'a pas étudié cette dimension-là, mais des collègues l'ont fait et montraient effectivement qu'il y avait, ce que je disais tout à l'heure, finalement, qu'une certaine forme de positionnement politique contre le gouvernement qui était plus marquée chez les personnes qui n'avaient pas l'intention de se faire vacciner. Pour l'instant, on n'a pas de données sur... on a des données sur est-ce qu'on est prêt à se faire vacciner, est-ce qu'on était prêt à se faire vacciner ou pas. On n'a pas de données sur qui s'est fait encore vacciner. L'enquête Epikoff dont vous parliez tout à l'heure, d'ailleurs, elle est en ce moment sur le terrain. On a commencé il y a 15 jours. Oui. On est en train d'interroger 100 000 personnes en ce moment même, et notamment sur les questions de vaccination.
Et c'est intéressant parce que vous allez aussi les voir changer.
Absolument. Et on va voir justement comment les personnes qui manifestaient une hostilité marquée vis-à-vis du vaccin vont ou pas finalement se faire vacciner. Mais bon, ça, c'est des travaux qui sont en cours. Moi, je voudrais revenir un petit peu. Alors, sur la question de... Bon, évidemment qu'on est dans un moment de forte lassitude que vit la population après tout ce qu'on a traversé, en rappelant quand même qu'il y a quand même des groupes sociaux qui ont vécu cette phase de manière beaucoup plus difficile que d'autres. Je pense aux personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont vu leurs conditions de travail se dégrader. Enfin bon, tout ça, on le sait bien. C'est juste pour dire que c'est pas homogéné. Moi, on voit pas, on n'a pas d'éléments, en tout cas à ma connaissance, pour dire qu'il y a cette fracture forte que vous évoquez. Mais je crois que ce qui est intéressant dans la recherche qu'on peut faire, c'est aussi de comprendre la signification de ce refus vaccinal. Ça n'est pas, et c'est très complémentaire avec ce que vient de dire Laurence avec une perspective philosophique, se refuser de se faire vacciner, c'est pas simplement être une tête de bourrique et dire je pense qu'à moi.
Ce serait tellement trop facile. Et peut-être que certains d'ailleurs aimeraient bien que ce soit que ça, parce que ce serait tellement simple de dire c'est des imbéciles. En fait, c'est évidemment beaucoup plus compliqué.
Exactement, c'est que ces oppositions à la vaccination, finalement, elles s'ancrent dans ce que nous on appelle des logiques sociales que je vais expliquer tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui est opposé à la vaccination. Et en particulier, un exemple qui va parler à tout le monde, les femmes. Pourquoi les femmes sont plus opposées à la vaccination que les hommes ? Alors, encore une fois, je dis pas que finalement elles vont pas se faire vacciner parce qu'elles vont être rappelées à l'ordre de leur rôle social, de maîtresse des soins dans la famille. Mais elles sont plus opposées que les hommes, à la vaccination. Mais quand je dis opposées, c'est fermement opposées. Ouais. Pour toute une série de raisons, dont une qui est intéressante, c'est que d'une manière générale, les femmes, pour des raisons de socialisation, sont plus hostiles à l'innovation technique et médicale, d'une manière générale. Mmh. Et on le retrouve dans le vaccin qui a été fait, même si la technique ARN existe depuis 20 ans, qui a été produit à une vitesse absolument incroyable dans l'histoire de... On n'a toujours pas de vaccin contre le VIH, mais on a eu un vaccin. Donc elles sont plus opposées au vaccin pour cette raison-là. Elles sont aussi plus opposées au vaccin parce que finalement, quelque part, ça remet en cause leur rôle social qu'on leur a attribué de tout gérer, la santé des petits, la santé des parents. Et un gouvernement, dans un pays où on n'a pas créé de vaccin, prend en charge cette politique vaccinale et vient dire, ben voilà, quelque part, c'est une irruption du politique dans la gestion de la santé au sein de la famille. Et ce qui fait que les femmes sont un peu plus distante vis-à-vis de ça. Puis un dernier élément, dont vous aviez d'ailleurs fait une émission sur le sujet il y a quelques années, la fameuse crise des pilules il y a quelques années autour de la question des thromboses veineuses et des pilules de troisième ou quatrième génération. Ben, vous parlez, vous lâchez le thème de thrombose, forcément ça réactive des peurs qui existaient et qui étaient vraiment très importantes et qui touchaient toutes les femmes, aussi les hommes d'ailleurs, parce que la grande majorité des femmes sont amenées à prendre la contraception. Donc ce que je veux dire, c'est que cette opposition vaccinale plus marquée pour les femmes, elle a un sens. Elle est plus marquée dans les classes populaires aussi. Pourquoi ? C'est pas parce qu'ils sont ils réfléchissent moins, pas du tout. Ça traduit une distance sociale plus importante entre les classes populaires et le pouvoir médical. Puis un dernier exemple, peut-être, qui est intéressant aussi, c'est les personnes qui appartiennent à des minorités ethno-raciales sont plus opposées au vaccin que les personnes françaises nées de parents français qui vivent en France depuis plusieurs générations. Et ça, ce que montrent nos enquêtes, c'est pas du tout qu'il y a un déni de la maladie, puisque ces personnes-là adoptent autant que les autres les gestes barrières, se font autant tester que les autres, etc. Mais pourquoi il y a cette défiance plus marquée vis-à-vis du vaccin? Parce que ce sont des groupes sociaux qui ont été confrontés soit directement, soit des personnes proches, à des expériences de discrimination dans l'accès aux soins du fait de leur statut de minorité ethno-raciale. Donc, c'est quelques exemples juste pour montrer que cette opposition au vaccin, elle n'est pas juste une perspective égoïste, et qu'elle est vraiment, elle renvoie à des enjeux sociaux et des enjeux politiques importants.
Mais ce que ça dit aussi, et c'est intéressant, c'est que tout cela est très argumentable, en fait. et rien à voir avec des arguments d'ailleurs sur si l'ARN c'est bien, etc., etc. Très argumentable si on va à la rencontre de ces populations-là qui ne sont pas fait vacciner, si on va à la rencontre de ces mères-là, de ces femmes-là dans certains quartiers défavorisés, ça veut dire que le refus il est négociable, si je puis dire. En fait, c'est le sentiment que ça me laisse, moi, non, Laurence de Villers.
Il est négociable et en même temps, vous avez employé le mot, il y a quand même de la peur. Qui peut se manifester par une paranoïa. C'est-à-dire, on peut très bien avoir fait le choix du vaccin et se dire, j'ai quand même un peu peur de ce vaccin. Et que dit Freud sur la paranoïa? Que c'est en fait...
Que dit Freud?
Avant que vous me posiez la question, il y a une synthèse. Que dit Freud? Non. Enfin, c'est quelque chose de grave en réalité. Que dit Freud sur la paranoïa? C'est une façon d'externaliser la peur. C'est-à-dire qu'il vaut mieux donner un visage à la peur, dire c'est un tel, c'est le vaccin, dans les théories du complot, que de la vivre. Donc, je pense qu'il y a... Enfin, vous avez dit, on est revenu au monde d'avant, peut-être en pire, parce qu'on avait rêvé autre chose, donc c'est toujours pire de revenir au pire, et pas au meilleur. Mais... quelque chose qui me semble nouveau, c'est qu'il faudra sans doute, en politique, négocier avec les colères, et non pas se dire qu'on peut apporter la paix sans colère, et il faudra sans doute aussi gérer les peurs. Et on ne peut pas faire fi ni de la colère, ni des peurs. Et encore une fois, la peur, y compris chez ceux qui se sont fait vacciner.
Alice est avec nous, pardon Alice. Alice, je vous écoute.
Bonsoir.
Allez-y.
Alors, moi, je suis auxiliaire de vie à domicile et je suis très énervée quand, dans les soirées, on parle de solidarité quand je dis que moi, je ne veux pas me faire vacciner. Parce que bah, pendant le premier confinement, par exemple, on a couru partout, on s'est plié en quatre. Moi, j'ai fait le tour de Lyon pour distribuer des masques qui n'existaient plus en rayon, pour trouver des gants d'examen. Je faisais tous les magasins de matériel médical pour trouver des gants d'examen qui, d'ailleurs, ont triplé au niveau du prix. On a fait des remplacements pour les toutes celles qui devaient s'occuper de leurs enfants. Dans l'entreprise pour laquelle je travaille, aucun patient n'a attrapé le Covid suite à un passage d'auxiliaire de vie. Pourquoi ? Parce qu'on sait faire notre métier, on sait utiliser les protections, on sait faire les gestes de sanitaire qui sont nécessaires pour ne pas être malade et pour ne pas rendre les autres malades. Voilà, on fait très attention et je trouve ça insupportable qu'on nous fasse culpabiliser en utilisant l'idée de la solidarité, alors qu'il y a au niveau du gouvernement, tout ça, je trouve qu'elle est complètement inexistante. Moi, je suis pas anti-vaccin, parce que les autres
non, mais je vous entends.
Avec leur corps, je veux gérer mon corps comme je l'entends.
Je vous entends,
et
Alice.
Ma santé aussi.
Okay.
Et les clients préfèrent nettement que je vienne sans être vaccinée plutôt que je ne vienne pas du tout. Ils s'en foutent complètement.
Ils n'ont pas le choix. Alice, honnêtement, ils n'ont pas le choix.
Les personnes âgées dont je m'occupe, ils s'en fichent. Eux, ils sont heureux que je vienne. Ils savent que je fais attention, que je porte mon masque, que je me lave les mains tout le temps.
Et ils sont vaccinés.
La plupart, oui. Oui, oui.
Parce que ce que j'entends dans ce que vous dites, moi, je trouve ça hyper intéressant. Votre refus est politique, en fait. Puisque vous n'avez pas eu de masque, puisque ça a été si difficile au début, ce qui est une réalité, par ailleurs, dans ce que vous avez vécu.
Oui.
Donc, du coup, il n'y a pas de raison que maintenant, je fasse ce qu'on me demande de faire.
Et moi, de toute façon, c'est pas ma méthode de soins, de toute façon. Mais je suis très choquée qu'on mette en avant la solidarité et qu'on nous fasse culpabiliser alors qu'on était là sur le terrain et qu'aujourd'hui des gens qui vivent avec les minima sociaux, avec des allocations d'adultes handicapés doivent payer une boîte de gants d'examen pour qu'on puisse leur faire leur toilette 8,90 au lieu de 3,90. Enfin, c'est juste aberrant, mais ça, tout le monde s'en fout.
Merci.
Tout le monde s'en fout.
Merci Alice, on l'a entendu, votre raisonnement, Nathalie Bajos, et nous renvoie à ce qu'on disait effectivement en ce début d'émission sur ce que peut être le refus politique qui va chercher bien plus loin que évidemment les arguments médicaux et qui nous laisse un peu quoi quand même, j'ai envie de dire, non ?
Mais je crois que ce témoignage est extrêmement, extrêmement intéressant. Effectivement, montre bien que cette défiance politique, elle couvre beaucoup de dimensions différentes. J'avais pas
elle
évoqué.
Elle dit, je n'ai pas besoin d'eux, je sais faire, en fait.
Ben, oui, mais c'est vrai que, si vous voulez, alors je pense que ça renvoie aussi à tout le débat qui traîne depuis plusieurs semaines autour de l'obligation vaccinale chez les soignants. C'est-à-dire que, ce faisant, on finit quand même par remettre en cause les compétences professionnelles des professionnels du soin, comme cette auditrice, comme s'ils n'étaient pas capables de pouvoir adopter les gestes barrières. Donc d'un côté, ce sont des groupes professionnels qu'on a mobilisés de manière totalement incroyable pendant tout le début de l'épidémie. Et puis maintenant, face à une stratégie vaccinale qui montre ses limites, où on n'arrive pas à avoir un taux de couverture vaccinale qui soit suffisamment élevé pour atteindre une immunité au niveau de la population, on met l'accent sur le groupe des soignants qui refuse de se faire soigner. Et donc je comprends parfaitement la réaction de cette auditrice. Et c'est vrai que derrière ça, derrière ce discours, il y a quand même une remise en cause des compétences professionnelles des soignants. Et moi, il me semble que la bonne façon de, enfin la bonne façon, c'est pas Yaka Faucon, hein, mais en tout cas une autre lecture qu'on peut avoir de cette question des limites de la stratégie vaccinale aujourd'hui, c'est en aucun cas de se focaliser sur un groupe social ou professionnel quel qu'il soit d'ailleurs. C'est d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas aller plus loin dans la vaccination en respectant la liberté de chacun. Alors peut-être que Laurence ne sera pas d'accord avec moi, mais in fine, de se protéger ou pas de se protéger, de se vacciner ou de ne pas se vacciner, mais qu'au moins les personnes puissent avoir les éléments pour prendre une décision éclairée sur leur choix de se vacciner ou pas.
Mais les éléments quand même, Nathalie Bajos, là on les a, non, non? Après ça devient un vrai choix, mais les éléments
Mais Fabienne Synthèse, vous dites les éléments on les a, vous les avez, je les ai, il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas, il y a beaucoup de personnes qui sont distantes de l'information.
Là-dessus, je vous suis, mais c'est pas le cas de Jean comme Alice, par exemple. Les éléments, elle les a. Elle a fait un choix. Oui, mais c'est le sien.
Oui, mais c'est.
Mais
c'est
les éléments sont là.
Ben absolument, mais je voudrais surtout pas laisser entendre qu'il suffit d'informer les gens pour que tout se passe bien et que les gens se fassent vacciner. Il y a de ce refus vaccinal, on voit bien la dimension éminemment politique et que c'est vrai que parler des vaccins, de l'obligation vaccinale chez les soignants sans même aborder les conditions de travail, les revendications, je veux dire, de la crise du Covid, il ne faut pas oublier qu'elle est arrivée à un moment où il y avait une très forte mobilisation de la part des professionnels de santé autour de l'hôpital, mais aussi autour des structures de prise en charge des personnes âgées comme les EHPAD, etc. Donc on leur a demandé un effort surhumain pour arriver à dépasser cette phase des premières et des secondes et de la deuxième vague. Et maintenant, on met juste l'accent sur la question de la vaccination. Moi, je pense que si on avait une approche globale, on entendrait aussi une revendication politique qui reste complètement posée et qu'on la considère légitime ou pas politiquement, là n'est pas le problème, c'est que ces personnes-là, elles ont mis de côté toute une série de revendications le temps de la crise et maintenant, on efface tout et on leur demande juste de se faire vacciner.
J'entends ce que vous dites. Après, il y a une question de temps aussi qui joue et le temps ne joue pas en la faveur d'attendre aussi longtemps faire j'allais dire des promesses pauvrettes aux infirmiers, etc., qui, je ne sais pas si elles seront tenues et dans quelles conditions elles seront faites, etc., avant de pouvoir les amener à la vaccination.
Non, mais qu'on comprenne au moins les réticences vaccinales, dont ce type de réticences qui sont liées à des positions politiques. Maintenant, il y a un autre argument qu'il faut avancer, c'est que dans les professions de soins, la prévalence de l'épidémie est extrêmement élevée. C'est un des groupes sociaux où la prévalence de l'épidémie est le plus élevée. Le risque zéro n'existe pas. Et donc, autant quand on va se faire soigner à l'hôpital, on n'a pas envie d'attraper le Covid, mais autant quand on va travailler, quand je dis l'hôpital ou les structures de soins ou les EHPAD ou autres, quand on va y travailler, on n'a pas non plus envie de s'exposer au virus en allant travailler. Donc, ce que je veux dire, c'est que le risque zéro n'existe pas. Le niveau est très élevé. Il y a d'autres vaccins qui sont obligatoires, comme par exemple l'hépatite B. La question se pose par rapport au fait que le risque zéro n'existe pas et que même si on est hyper précautionneux, il y a toujours des moments où le risque est important.
Ce que j'entends, moi, ce qui m'inquiète un peu dans, quand j'entends Alice, non pas sur son choix, elle qui est le sien, c'est que c'est irréconciliable, en fait. Parce que si l'une des raisons noyaux, c'est cette raison politique, Laurence de Villers, au milieu, les élections, c'est pas avant le 2022 au mois d'avril. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'on pourra faire un autre choix. Donc, je crains qui est quelque chose de totalement irréconciliable pendant toute cette année qui vient, au fond, non, Laurence
Delier? On n'est pas obligé d'attendre les résultats des élections, enfin les élections présidentielles, pour entendre et réagir face à la crise que traverse l'hôpital public et d'autres structures.
Ouais, on n'est pas loin de la mutinerie, d'une certaine façon.
C'est ce que j'allais dire, sauf que là, c'est vraiment dirigé, c'est vraiment très très dirigé contre un gouvernement.
Alors,
et
on a employé le terme de guerre pour pour essayer de lutter contre, enfin pour essayer de définir notre lutte contre le virus. Qui dit guerre dit mutinerie possible. Donc même si on entend et Nathalie Bajos l'a dit, les revendications, enfin le virus est arrivé à un moment où les conditions du personnel hospitalier de soins étaient,
ce qui est une réalité,
qui est une réalité. Leurs revendications peuvent être parfaitement légitimes, mais il y a deux choses qui m'ont frappée dans le discours d'Alice. Il y a le rejet de l'obligation parce qu'on la voit immédiatement comme une culpabilisation. C'est assez curieux parce qu'on pourrait dire aussi que l'obligation est ce qui permet justement de réconcilier une société qui peut ne pas l'être. Et puis, moi qui ai connu quand même le temps où on mettait des pins Solidarnosc, j'ai entendu qu'Alice apporter un sens négatif à la solidarité. Donc, quand je vous parlais, quand je vous disais on a basculé, je trouve que c'est frappant. La solidarité est vue comme quelque chose de négatif, voire une manipulation. On nous dit la solidarité, en gros, pour qu'on se taise. Ouais. Enfin, j'avais l'impression qu'Alice, encore une fois, à tort ou à raison, mais le disait. Et puis, l'obligation est rejetée parce qu'elle est d'emblée considérée comme culpabilisatrice, donc négatrice de ma liberté individuelle.
L'obligation provoquerait un élargissement de cette fracture-là, non ? On est d'accord, Nathalie Bajos ? Est-ce que je parle de l'obligation ou même d'instaurer un pass vaccinal dans plus d'endroits, donc qui ferait vraiment une fracture entre ceux qui ont le droit de rentrer quelque part, ceux qui n'ont pas le droit de rentrer quelque part ? Est-ce que ce serait pire ?
Et qui ne sont pas n'importe qui, hein. Je veux dire, le pass vaccinal, je veux dire, si c'est pour aller voyager, aller dans les expos, dans les concerts, etc., on va creuser les inégalités sociales qui existent encore et qui sont encore extrêmement prégnantes aujourd'hui, comme le montrent nos travaux. Encore une fois, moi, je me permets de dire que pour moi, la bonne question, c'est pas une réponse simple à un enjeu complexe qui est celui des limites de la stratégie vaccinale. Je veux dire, il y a si la réponse c'est pas juste, on va obliger les soignants à se faire vacciner, mais on va vraiment prendre en compte les conditions de travail des personnels de santé, des personnels soignants. On va vraiment se dire, il y a des groupes sociaux qui sont particulièrement exposés. On va mettre en place des dispositifs comme ceux qu'on a mis en place quand on a essayé de lutter contre l'épidémie de SIDA. C'est-à-dire qu'on va envoyer des équipes, on va s'appuyer sur un tissu associatif. On va faire une réponse qui soit pas que en termes de représentation, mais aussi en termes d'accès. Et en comprenant le sens de ces refus vaccinaux, ben je pense que si on est, c'est toujours facile de dire on peut, mais en tout cas, pour moi, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est juste se centrer sur la question de l'obligation vaccinale, que ce soit du groupe des professionnels de santé ou d'autres groupes dans lesquels la prévalence de l'épidémie
quand est très élevée. Quand je vous parlais de temps tout à l'heure, c'est ce que c'est ma crainte. Imaginez, je suis soignante et pour l'instant, je ne me vaccine pas pour les raisons, par exemple, qu'a dit Alice, et puis demain, on m'annonce que oui, on a pris en compte les difficultés de l'hôpital, oui, il va y avoir des efforts qui seront faits, etc. Ma réponse est de dire attendez, vous êtes en train de nous endormir pour nous emmener jusqu'à la vaccination. Vous croyez pas qu'on est si naïf que ça? C'est pour ça que je vous parlais de l'attente d'une échéance électorale qui est bien plus lointaine que simplement l'essayer de rassurer, là, pour le coup, un groupe. Voyez.
Alors là, vous soulevez encore un autre problème, c'est les promesses qui sont pas tenues. Mais moi, bon, j'ai pas d'expertise sur ce sujet.
On est d'accord, moi non plus.
Non, mais je suis d'accord. Je voudrais juste redire un mot, pardon, sur la question de la solidarité, parce que moi, j'entends bien vous parler de basculement et je trouve que c'est extrêmement intéressant l'éclairage philosophique qu'on peut avoir sur ces questions. Ce que j'aurais juste quand même souligné, c'est que ce qu'on voit dans nos enquêtes, c'est que quand même, la grande, grande majorité, y compris les jeunes, ont accepté, disent, être d'accord avec toutes les mesures qui ont été prises de confinement, de fermeture des facs, etc. Pour, en sachant qu'ils se sentent génération sacrifiée, parce que perte d'emploi, perte de difficulté de stage, mais qui trouvent que c'est normal de le faire par rapport au contexte sanitaire. Et donc, c'est un peu en décalage avec ce que vous dites. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont sur les positions que vous annoncez, mais quand même, ce qui est assez surprenant, c'est cette manifestation de solidarité qui nous a vraiment marqué dans les enquêtes. Alors, on est en train d'interroger 100 000 personnes, ça va peut-être changer, mais c'est quand même intéressant de voir.
Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un paradoxe, en fait, dans cette période que l'on vit là depuis un an et demi, Laurence de Villers. On s'est confiné, et on s'est confiné au démarrage d'ailleurs, principalement pour protéger les personnes les plus à risque, les plus âgées, etc.
Et on s'est tous uniformément confinés.
Et nous l'avons fait. Et bien sûr, il y a eu quelques resquilleurs. Honnêtement, ça a été extrêmement minime. Et voilà qu'on arrive à un moment où le collectif nous dit autre chose, en fait, nous parle d'autre chose, et pouf, on a l'impression qu'on le rejette. Et ça, c'est ma grande incompréhension, en fait.
Mais je pense que vous l'aviez dit, c'est qu'on est revenu au monde d'avant. C'est-à-dire que, Alors, je m'interroge, hein, Nathalie Bajot, est-ce que si on prend en compte les colères, on les résorbe? Je ne suis pas certaine. Je pense qu'en fait, la colère dit toujours plus que ma réaction à ma situation présente. Et encore une fois, je pense que le monde politique doit prendre en compte ses colères et qu'ils ne s'éteignent pas si on donne une prime. Je ne suis pas certaine, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en donner, mais je me demande si ça dépasse pas les revendications sociales satisfaites ou pas, ou les promesses politiques tenues ou pas. Vous demandiez, est-ce que ce serait pire s'il y avait une décision politique? Ben, je m'interroge. Je me demande s'il ne serait pas, en fait, plus utile, ou en tout cas plus bénéfique pour réconcilier l'irréconciliable, des irréconciliables, qu'il y ait une décision politique ferme, argumentée sans doute, enfin éclairante. Je me demande si l'atermoiement autour du fait de décider s'il faut inciter, s'il faut obliger, je me demande si c'est pas pire. Je pose la question.
Oui, mais je l'entends, et le silence que vous entendez est un silence de réflexion aussi, parce que je n'ai évidemment pas la réponse et personne ne l'a. Il nous reste très peu de temps, mais Françoise, j'ai vu que vous étiez là, pardonnez-moi et je vous écoute.
Oui, bonjour. Je voulais vous dire, donc, je suis une femme de 65 ans et je suis vaccinée. Je suis la génération de la pilule et je trouve qu'elle a libéré la femme tout en prenant conscience des risques que nous prenions. Donc, de la même façon, j'ai décidé de me faire vacciner et je voulais dire que je ne comprends pas tout ce qui est prétexte sociaux, médicaux, tels qu'on vient de les entendre, et les prétextes environnementaux. Je crois que quelque part, les médias ont une responsabilité à laisser un certain nombre d'arguments traîner qui n'illustrent pas la situation.
Françoise,
les pandémies sont historiques, c'est-à-dire qu'on en avait avant que l'homme domine la nature, on en avait avant l'élevage industriel. Donc votre première auditrice, quand elle a commencé à parler de ses arguments, on ne peut pas lui laisser dire cela et la laisser imaginer que les prétextes environnementaux, même s'il y a
Françoise,
des problèmes environnementaux...
Pardonnez-moi, je suis désolée, mais vraiment, on a entendu ce que vous disiez et on voudrait vous répondre. Nathalie Bajot va le faire. Je vous presse parce que on devrait déjà avoir rendu l'antenne. Je vous en prie.
Très rapidement, je crois que c'est très clair que face à la situation épidémique actuelle, un taux de vaccination beaucoup plus élevé, c'est un objectif absolument indispensable. Essayer de comprendre les réticences à la vaccination, ça n'est pas les justifier, c'est juste essayer de les comprendre pour apporter une réponse qui soit plus efficace.
Et pour qu'on puisse effectivement s'en sortir tous, les uns les autres. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette discussion passionnante qu'on aura encore, j'imagine, d'ici à la fin de cette histoire. Merci vraiment. Je voudrais remercier Henri Bérec, Antoine Gomez et Benjamin Troncin à la technique pour cette semaine, Amélie Stadelman et Nathalie Poitevin à la programmation, Marie-Claude Pinson à la rédaction en chef, Zoé Fauché est à la documentation et au site. Un grand merci tout particulier et des bisous à Fabrice Lègle qui vient de réaliser son dernier 18-20 avant d'autres aventures à France Inter. Tu vas nous manquer, Fabrice, mais on t'aime quand même.